À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question des saints innocents. Alors, on peut se demander pourquoi parler des saints innocents, puisqu'on nous a bien dit dans ma page éditoriale de la presse, l'avant-veille de Noël, n'est-ce pas, dans un article de Pierre Desjardins, que c'est une chose d'imagination, finalement, cette histoire du massacre des saints innocents, puis de la fuite en Égypte, qui est mise de l'avant par l'évangéliste Saint Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 2. D'ailleurs, on l'a dans la lecture aujourd'hui à la messe, ceux qui ont encore le courage d'aller à la messe, parce qu'il y a des gens même qui ne sont pas allés hier, étant donné qu'ils y étaient allés la veille de Noël, le jour de Noël. Et puis, le curé me disait, il y a un peu moins de monde aujourd'hui. On me disait ça hier matin. Et alors, au chapitre 2 de Saint Matthieu, je vous le fais la petite lecture, c'est pas bien long, je ne le fais même pas au complet. Il s'est écrit après la visite des mages, vous savez, les sages, ce qu'on appelle les rois mages. Ce sont pas des rois, mais des sages, des astrologues, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Il lui dit, vous savez, Saint Joseph serait l'inspirateur de Saint Matthieu et Marie serait l'inspirateur de Saint Luc, ou l'inspiratrice de Saint Luc. Alors l'ange lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode, le roi Hérode, là, va rechercher l'enfant pour le faire périr. C'est ça le massacre des innocents. Hein? Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retire en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, et ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, autrefois dans la Bible, « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur, et il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans. On calcule qu'il en aurait eu environ une vingtaine, peut-être un peu moins. Tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Donc, il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Bon. Est-ce que c'est un conte, ça? Est-ce que c'est une façon de parler qu'à Saint Matthieu, lui qui est juif, il s'adresse à des juifs? On va essayer de comprendre ça pour voir ce qu'il en est et ce que tout ça veut dire. Puis on va voir s'il y a encore des massacres d'innocents aujourd'hui. Puis si les massacres des innocents continuent toujours, et je crois que oui, ça continue toujours, les massacres d'innocents. Quand on pense à tous ces gens, les petits, pensez à ce petit garçon de 12 ans au Pakistan, ce petit chrétien qui s'est révolté, qui avait été vendu par ses parents, même chrétien, pour $15, à l'âge de 4 ans, puis qui est allé fabriquer des tapis ou je ne sais quoi. Puis il s'est révolté contre ça, puis il est venu même en Occident, on l'a fait venir, il est devenu une vedette ici, le petit Iqbal. Puis le jour de Pâques 1995, on l'a assassiné. Massacre des innocents. Toujours ce massacre des innocents. Pauvres enfants, qui sont traités comme des esclaves dans tant de pays, et ici, qui sont très maltraités, souvent nos enfants. Or, l'évangéliste Saint Matthieu, donc, dans son chapitre 2, nous apprend qu'à la suite de leur visite à Bethléem, où ils avaient conduit cette étoile mystérieuse, c'est difficile à comprendre, cette étoile mystérieuse aussi, j'ai l'impression que c'est un symbole encore, moi, personnellement, les mages furent avertis en songe de ne point retourner vers Hérode comme il le lui avait promis. Alors un ange du Seigneur donna en même temps à Joseph l'ordre d'amener en Égypte l'enfant et sa mère, vous vous souvenez, car il devait arriver qu'Hérode chercherait l'enfant là, pour le faire mourir. Puis ne voyant plus reparaître ses visiteurs, là il est en colère, lui cet Hérode, et puis il envoie tuer tous les enfants qui étaient nés dans Bethléem et aux environs, depuis 2 ans, et au-dessous. Alors l'ordre est exécuté. Sans donner d'autres détails, l'évangéliste se contente de signaler l'accomplissement en cette occasion d'un oracle de Jérémie. Il se réfère à l'Ancien Testament, là. Une voix a été entendue dans Rama, des pleurs et des cris déchirants souvent répétés. C'était Rachel pleurant ses fils et ne voulant point se consoler parce qu'ils ne sont plus. On fait ça souvent dans ces auteurs anciens comme Saint Matthieu, ce juif qui parle à des juifs, je vous le répète, on se réfère à des textes de l'Ancien Testament comme pour prouver pas nécessairement prouvé, mais pour enchanter les auditeurs dans sa déclaration, lui, qu'il fait, Saint Matthieu, de la messianité de Jésus, de sa mission, de son caractère divin, d'ailleurs. Alors, d'après les calculs modernes, le nombre des enfants massacrés par Hérode a été de 20, peut-être même 30. Bon, qu'est-ce qu'il en est? Réfléchissons deux secondes. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, oui, j'avais 17-18 ans, je réfléchissais à ça, puis je me disais, il n'est pas bien fin, cet Hérode, puisqu'il est à Jérusalem, lui. Il reçoit les mages. Je comprenais pas que les mages puissent suivre une étoile dans le ciel et se rendre comme ça à Jérusalem. Comment l'étoile peut-elle les conduire? Je comprenais pas ça. Je posais des objections à mes professeurs jésuites. Et puis, il y en avait qui me comprenaient et qui disaient que j'avais raison de me poser des questions. Et puis, cet Hérode, donc, ce roi qui est puissant, qui a des soldats, qui a du monde autour de lui pour pouvoir aller tuer cet enfant qu'il ne veut pas voir, puisqu'il craint cet enfant Jésus va occuper le trône et le débarquer de là. Alors, il envoie les mages, mais il les fait pas accompagner incognito, de loin, à quelques mètres plus loin, par deux ou trois soldats, et qui se chargerait, n'est-ce pas, en suivant les mages, de découvrir Jésus, et ainsi d'entrer dans la crèche, puis de tout simplement massacrer Jésus et même la Vierge Joseph. Ça leur pesait pas beaucoup. Dans le temps d'Hérode, Hérode a tué tellement de monde, hein, vous savez, c'était un criminel abominable. Alors, on peut se poser ces questions-là. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait ça? Pourquoi attendre que les mages reviennent? Puis qui sont de toute façon ces mages? En somme, le projet de cet évangéliste Saint Matthieu n'est pas de rendre compte d'un incident dans un but historique ou anecdotique. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous apprendre quelque chose sur la personne puis la mission de Jésus. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'il faut retenir, et c'est ça qui est important. Et j'aime beaucoup ces espèces de contes, on appelle ça des midrashes, en langage biblique et hébraïque. Des midrashes, moi j'aime ça. Puis ça nous enseigne quelque chose. Hein? Et c'est beau. Et ce sont de belles histoires. Jésus apparaît donc comme le nouveau, ou plutôt comme le vrai Israël, le fils réel de Dieu, alors qu'Israël l'est au figuré. Alors, il est le fils réel de Dieu qui revit l'événement décisif qui est à l'origine de l'histoire de son peuple. Alors, comme Israël, qui est Jacob, n'est-ce pas, on s'en souvient, il est conduit en Égypte grâce à une révélation dans un rêve que fait Joseph, là, sans équivoque. Mais cette espèce de rapport ou de typologie, comme on dit, entre Jésus et Israël, le Jacob qui est transporté, qui va en Égypte, n'est-ce pas, qui est reconnu par ses frères, eh bien, se trouve compliqué par au moins une allusion très nette qui nous renvoie, même à un moment donné, explicitement à Moïse. Parce que Matthieu veut aussi faire un rapport avec Moïse, qui est le grand personnage. Il y a d'autres allusions à Moïse qui sont encore plus frappantes dans d'autres passages de l'Évangile de l'enfance. L'Évangile de l'enfance, vous savez ce que ça veut dire, l'Évangile d'enfance, vous comprenez tout ça, hein? C'est la partie de l'Évangile de Saint-Luc, puis l'Évangile de Saint-Matthieu, qui a trait à l'enfance de Jésus, à sa naissance et tout ça. Alors, cette annonciation qui est faite à Joseph par l'ange qui lui annonce, prend l'enfant et sa mère et va-t'en. Et puis, le massacre des innocents, qui est au chapitre 2. L'Annonciation, c'est au chapitre 1, l'Annonciation de Joseph. Ça dénote des ressemblances avec l'histoire de la naissance de Moïse, surtout si l'on tient compte des traditions que l'on voit chez les rabbins au cours des siècles. De toute façon, pour pas s'étendre trop longtemps là-dessus, disons bien que l'enfance de Jésus non seulement récapitule le récit de la naissance de son peuple, Israël, mais aussi se reflète dans celle de son plus grand chef, Moïse. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est très beau. Moi, je suis pas contre, loin de là. Je trouve que Matthieu fait un bon travail, un travail de juif d'il y a 2000 ans. Faut se mettre à l'époque. Hein? Mais en se faisant, Ces choses-là comme ça, là, ben, l'évangile de l'enfance de Saint Matthieu n'est pas seulement une référence au passé. Faut pas penser que c'est simplement une référence au passé. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus riche que ça. L'enfant qui est fils de Dieu, fils de David, qui est le Messie, qui échappe à la mort en tant que roi des Juifs, comme il est dit au chapitre 2, verset 1, bien, en fuyant en Égypte, pour revenir ensuite s'établir à Nazareth, d'après Saint Matthieu, là, jusqu'à la fin de sa vie cachée, on le voit au chapitre 2, verset 23, mais ça, ça préfigure le Jésus de Nazareth, qui va être le fils de Dieu lui aussi, c'est toujours le fils de Dieu, le fils de David, le Messie, c'est le même, qui sera mis à mort, en tant que roi des Juifs encore une fois, chapitre 27, ça. Et au retour de son exode, de son absence en Égypte, il sera en fait rejeté par les Juifs, comme jadis par Hérode et tout Jérusalem, comme il est dit au chapitre 2. Alors, il fait des rapports, et c'est très, très, très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très intelligent. Mais quand il va revenir pour se faire des disciples cette fois-ci, et de toutes les nations, comme jadis les mages. Parce que les mages, c'est une figure de style, un beau conte, qui nous montre que les gens viennent de très loin pour vénérer Jésus, qui est au cœur de l'histoire humaine. Et alors, Jésus va en effet évangéliser avec ses disciples tous les peuples de la terre. Le message ne s'adressera plus uniquement au peuple élu, mais à tout le monde. Et jusqu'à la fin des temps. Et ainsi, les grands thèmes de l'évangile de Saint Matthieu, que j'aime beaucoup cet évangile, hein, la filiation divine, la messianité, puis la mission universelle de Jésus, ben trouvent un écho dans son évangile de l'enfance, c'est là. Et l'évangile de l'enfance de Saint Matthieu, c'est une introduction théologique d'une profondeur insoupçonnée, je trouve, à l'ensemble de son évangile. C'est très, très beau. Quand on le lit, dans la façon dont j'essaie de vous expliquer tant bien que mal, on rentre ensuite dans les autres chapitres avec beaucoup plus d'intérêt et l'intention théologique qui est très accentuée de l'évangile de l'enfance, de ces textes qui semblent des contes, mais ce n'est pas que des contes, mais ça n'explique pas évidemment son authenticité historique sur certains points, parce que vraiment Jésus est né d'une vierge, et son père s'appelait Joseph, etc., mais certains éléments dans le récit lui-même nous empêchent de l'envisager comme une espèce de rapport fidèle à la lettre des événements historiques. C'est tout d'abord surprenant de constater que les deux récits canoniques de l'enfance de Jésus chez Matthieu et chez Luc n'ont pratiquement rien en commun à part la mention de la conception virginale de Jésus, sa naissance à Bethléem, le nom de ses parents, leur domicile à Nazareth. Chacun rapporte un ensemble de faits différents, avec sa manière très personnelle de voir les choses. Et chez Luc, c'est Marie, comme je vous ai dit, qui est l'héroïne, puis et Nazareth aussi, qui est le centre géographique de l'action chez Luc, là, chez Saint-Luc. Mais chez Saint-Matthieu, là, l'accent est porté sur Saint-Joseph. Et c'est lui qui reçoit les directives de l'ange, et puis Bethléem devient alors le point de départ du récit selon la tradition. Et ceci s'explique par le fait que Saint-Luc tient ses sources de Marie, puis Saint-Matthieu, sans doute, de Joseph. Mais, comme le fait remarquer un auteur, Soares, il est à peine concevable que deux personnes vivant ensemble, Marie et Joseph, on suppose en bonne entente, dit-il avec un point d'exclamation, mais une même série d'événements en ait transmis des souvenirs aussi différents. On peut se poser la question, elle est sympathique, elle ne manque pas de respect. Ceux qui, parmi les gens qui m'entendent, qui sont un peu surpris peut-être que je mette en doute très fortement la véracité du fait historique du massacre des innocents, de la venue des mages, etc., peuvent se référer à un ouvrage de l'abbé René Laurentin qui parle des évangiles de l'enfance du Christ. C'est un énorme livre, énorme. Donc, les évangiles de l'enfance du Christ, vérité de Noël au-delà des mythes. Il fait une exégèse, sémiotique, historicité, théologie, etc. C'est très, très savant. Puis, à la page 432, il parle du massacre des innocents pendant quelques pages. Puis il essaie d'en prouver l'authenticité. C'est très, 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 très difficile à comprendre. Et je l'ai lu plusieurs fois. Mais l'abbé Laurentin, que je considère comme un ami, n'arrive pas à me convaincre. Et je pencherai plutôt du côté de cette... de celui qui a écrit l'article dans la presse, qui n'est pas croyant d'ailleurs, Pierre Desjardins, ne cache pas qu'il n'a pas la foi. Mais je crois qu'il a bien raison quand il dit l'histoire du massacre des innocents, puis la fuite en Égypte est mise de l'avant, cette fois-ci par l'évangéliste Saint Matthieu, c'est imaginaire. Il s'agissait évidemment, encore là, de concrétiser une parole de l'Ancien Testament, celle du prophète Jérémie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis il ajoute, je trouve ça très bien, tout comme la mort des enfants égyptiens avait inauguré l'alliance avec Moïse, hein, vous vous souvenez, le massacre des enfants à toutes les deux portes, là. Eh bien, la mort des enfants de Bethléem symbolise chez Matthieu la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Il ajoute, on sait avec certitude qu'un tel massacre n'eut jamais lieu, puisque le plus grand, le plus fiable et le plus minutieux historien vivant, à l'époque de Jésus, Flavius Joseph, n'en glisse pas un seul mot. Ben, c'est peut-être possible aussi qu'il n'ait pas cru bon d'en parler, puisqu'il était un historien juif. C'est pas absolument une preuve. De toute façon, même pris séparément, n'est-ce pas, les deux récits dans Saint-Luc et dans Saint-Matthieu ressemblent un peu à des contes de fées. C'est ce que les plus grands exégètes catholiques avouent. Le merveilleux y abonde. C'est des catholiques qui écrivent ça. Puis c'est des catholiques sérieux dans des revues sérieuses et c'est publié même il y a déjà 30, 40, 50 ans. C'est pas d'aujourd'hui hein, qu'on pense comme ça. Ça fait très longtemps. Donc le merveilleux y abonde. Des anges donnent des instructions dans des rêves. Des mages mystérieux venus d'Orient apportent des cadeaux exotiques. Une étoile leur indique le chemin. Les scribes sont étonnamment prompts à préciser le lieu de naissance du Messie, hein. On dit aux mages, c'est à Bethléem. C'est un point d'ailleurs très discuté. On n'est pas sûr qu'il soit né à Bethléem. Mais moi, ça me dérange pas quand je suis allé à Bethléem. Deux fois, je me suis jeté à genoux à cet endroit où mes ancêtres, dans la foi depuis plus de 1000 ans, prient et reconnaissent l'incarnation de Dieu. Et c'est ce qui compte. Moi, c'est ce qui compte au creux de tout mon être, c'est ce mystère fantastique, fantastique, de la venue de Dieu parmi nous comme homme, en la personne de Jésus. Alors, il est question aussi dans ces textes mystérieux mais merveilleux aussi, hein, d'un roi, par ailleurs, comme je vous ai dit, Hérode, particulièrement habile, puisconduit d'une manière incroyablement naïve. Il se laisse berner par des simples mages. C'est incroyable, ça n'a pas de sens. Hein? Tout ceci, me semble, nous empêche de prendre au sérieux la valeur historique de ces récits. Surtout quand il s'agit de personnages aussi importants, historiquement, qu'Hérode. Hein? Ben, on voit bien avec ce massacre des innocents qui est célébré aujourd'hui dans l'Église. Et quand il s'agit aussi des événements qui les concernent dans nos récits, ne sont nullement confirmés par l'histoire d'alors, comme par Flavius Joseph et d'autres. Alors, faut être simple devant ces choses-là, et les récits de l'Évangile de l'enfance de Matthieu puis de Luc sont de toute évidence très dissemblables, ils racontent pas les mêmes choses, mais leur belle sobriété, ainsi que l'usage établi chez Matthieu d'interpréter, évidemment bien bien librement, mais de ne jamais inventer de toute pièce ces traditions, prouvent qu'ils contiennent un noyau de tradition authentique, quelque chose, il y a quelque chose d'authentique auquel nous devons attacher beaucoup d'importance, puis qui sont si dignes de confiance, quoi. Bon, la fuite en Égypte, par exemple, peut très bien être basée sur le souvenir d'un incident réel, peut-être pas en Égypte, hein, au cours duquel Joseph a été forcé de fuir un danger menaçant sa famille. C'est une hypothèse plausible si l'on tient compte des temps troublés dans lesquels il vivait. Mais comme je vous dis, il est improbable qu'il ait fui en Égypte. L'Égypte n'est sans doute ici qu'un élément d'une interprétation avec l'Ancien Testament. Dans un très vieux texte apocryphe qu'on appelle « Document de Damas », découvert à Qumran, il n'y a pas longtemps, fait souvent mention de la fuite de la communauté de Qumran vers Damas, où Damas est un nom symbolique peut-être pour Qumran aussi, on ne sait pas, c'est très compliqué. Alors je passe outre, parce que ça ne sert à rien de s'étendre sur ces questions-là, je crois vous avoir à peu près tout dit. Quel est le fait sous-jacent donc à l'histoire, évidemment imaginaire des mages? Est-ce qu'il y a dans le massacre des innocents quelque chose de plus qu'un essai d'assimiler l'enfance de Jésus à celle de Moïse? C'est pas facile de répondre à de telles questions, alors c'est pour ça que je m'enfuis vers autre chose. Et les évangiles de l'enfance que j'aime beaucoup, ne me faites pas dire que j'aime pas les évangiles de l'enfance, je lis ça avec joie. Nous ne devons pas oublier ça, en tous les cas, ce sont pas essentiellement, c'est pas l'essentiel de la prédication chrétienne. Ça annonce en premier lieu, d'abord, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ces évangiles-là nous enseignent, particulièrement Saint Matthieu, que le témoignage apostolique, le témoignage des apôtres, c'est-à-dire tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, disent-ils, on trouve ça dans les Actes, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, c'est ce qui est le témoignage des apôtres, ça. Puis il faut pas oublier non plus des choses importantes comme qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans une perspective théologique, là, ces événements-là, de la naissance et de l'enfance de Jésus, il faut les prendre dans une perspective de réflexion sur la divinité du Christ, sur la virginité de sa mère, sur la présence de ce doux et beau et grand personnage qui est son père adoptif, son père putatif, appelez-le comme vous voudrez. Moi, j'ai toujours appelé son père adoptif puisque j'ai adopté un enfant. Mais ce que Jésus a fait dans son enfance, ça peut alimenter notre piété. Alors, on trouve ça aussi dans les évangiles de l'enfance. Mais ça n'a guère d'importance pour notre salut. Ça nourrit notre piété, oui, d'accord. Ce qui est important, c'est de savoir qui était Jésus, c'est ça qui compte. Et à cela, l'évangile de l'enfance de Matthieu nous répond avec son éclatante façon de raconter les choses, comme il fait comme un tableau magnifique, on en a fait des crèches et tout ça. Il décrit la personne de Jésus comme fils de Dieu, fils de David, puis de cette mission qu'a le Christ d'être le sauveur de tous les hommes, il est notre sauveur à tous, sans aucune ambiguïté. C'est là qu'il faut appuyer, il faut vraiment chercher à comprendre jusqu'à quel point le message est important. Et ce massacre des innocents qui nous soulève le cœur, par la mort de 20 à 30 enfants qui ne méritent pas la mort, et ça c'est un conte, mais c'est un beau conte qui nous rappelle une réalité. Une réalité que nous pouvons constater de nos jours alors que le péché se diffuse. Il se diffuse le péché contre les innocents au point d'être exalté. Et ça devient même merveilleux. Quand on nomme ses péchés contre la famille, c'était le dimanche de la Sainte Famille hier, quand on parle de l'adultère, eh bien c'est très bien maintenant. C'est une excellente chose, c'est une forme de libération l'adultère. Et ça n'est rien de mal finalement dans la perspective que les gens ont aujourd'hui à l'encontre de ce qui nous est enseigné dans l'Évangile par les rapports entre Marie et Joseph, qui sont fidèles et forment une vraie famille avec l'enfant Jésus. Quand on parle d'avortement aujourd'hui, on parle beaucoup de la compassion que l'on doit avoir à une femme qui est vraiment très, très, très mal prise et qui ne peut vraiment pas affronter la difficulté d'un enfantement. Et alors, ce n'est plus même un péché qui se diffuse, ce massacre d'innocents, mais c'est exalté et c'est noyé dans une perspective contre laquelle on ne peut même plus parler, mais je vais vous en parler quand même au risque de me faire taper dessus. Mais je crois qu'il faut dire les choses vraiment avec beaucoup de douceur, et c'est ce que je ferai tout à l'heure. Et alors, justement, je lis tout à coup aujourd'hui la prière après la communion. C'est écrit en rapport avec le massacre des innocents, si on veut. « Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte, la communion. En ce jour où ton Église célèbre des martyrs incapables de confesser le nom de ton Fils, et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance. » Quel est aujourd'hui le plus grand obstacle à l'accueil des naissances dans la famille? Il y a deux niveaux. Il y a un premier groupe de raisons, on les entend souvent répéter, hein? Tout le monde, on entend ça. Ça consiste à dire plus ou moins que la vie moderne est très dure, que on est très occupé, le temps nous manque, les appartements sont trop petits pour accueillir une famille nombreuse, évidemment. Les appartements sont de plus en plus petits, on dirait. Et les études et puis l'éducation des enfants coûtent très cher aujourd'hui. Ça coûte très très cher. On fait des évaluations, un enfant coûte tant, n'est-ce pas? Et il faut que les parents aussi aient le temps et le calme nécessaire pour se détendre. Après tout, on peut pas être occupé 24 heures par jour. Il faut penser aussi aux forces de la mère en particulier. À la patience du père aussi. Il y a du travail, il y a des responsabilités qui mènent la barque dans des circonstances difficiles, ne sachant pas si son emploi il l'aura encore l'année suivante. Et il y a du vrai, par exemple, à mon avis, dans l'un des obstacles les plus durs, qui est le problème du logement. Parmi les autres raisons, il faut regarder les cas concrets. On s'aperçoit que souvent, non pas toujours, mais souvent, ce sont des raisons... Malheureusement, j'ai l'impression, moi, mais qui suis-je pour oser affirmer ça, c'est des raisons qui cachent de l'égoïsme, de la commodité, un manque d'esprit de sacrifice que nos parents avaient le sourire aux lèvres, pour la plupart. Oh, il y en avait qui avaient de la misère, c'est sûr. Mais combien le sourire habitait... nos parents qui avaient plusieurs enfants, 4, 5, 6, 7, 8. Comment se fait-il qu'un couple n'ait que deux enfants lorsqu'un autre, dans des circonstances semblables souvent, je parle pas d'un appartement de deux ou trois pièces, là, en ait 6? Ben oui, il y a des couples qui en ont 6 encore aujourd'hui, quelques-uns. Ils semblent pas s'essouffler ni tomber dans la déprime, ils ont l'air plutôt, au contraire, plus rayonnants que bien d'autres pour la plupart. Il y a un deuxième niveau aussi comme obstacle à l'accueil des naissances dans la famille. C'est un deuxième genre de réponse. Ça se tient, c'est la spiritualité du couple qui manque. Avoir des enfants ou en adopter, c'est accepter avec une générosité qui vient du cœur du Christ, qui vient de l'Esprit-Saint. Leur arrivée. Ça demande une vision vraiment chrétienne de la vie. Et c'est pas toujours facile aujourd'hui d'avoir cette vision vraiment chrétienne de la vie. Les gens ne savent plus où la puiser, ils n'ont plus les sources. Ils sont pris dans toutes sortes d'émissions de télévision qui inondent leur silence. Ils ne savent plus quoi lire, ils ne connaissent pas les livres qu'il faut lire. Ils ne connaissent pas Radio Ville-Marie, on ne leur en parle à peu près jamais. Non. Hier, je suis allé dans une église. Personne ne connaissait. Les gens qui allaient à la messe connaissaient le chapelet. C'est tout. Quelques-uns, très peu, mais personne d'autre, sur une assistance de 100 quelques personnes. Il faut une solide vie spirituelle pour accepter un enfant. Il faut recevoir des sacrements, il faut prier, il faut avoir un esprit de sacrifice, il faut s'oublier soi-même, il faut vivre pour les autres, et c'est ça des vrais parents. Et c'est ça, j'admire les vrais parents, même ceux qui en ont rien que deux souvent, sont de vrais parents aussi. Mais je sais pas, quand j'en vois qu'il y en ont 5 ou 6, leur sourire, leur joie. Puis il y a aussi une vision hédoniste de la vie, matérialiste. Ah, ça nous assaille. Même de bonnes personnes sont assaillies par ça, je ne les blâme pas, ils sont envahis. Partout, c'est un grand obstacle à l'accueil des enfants. Mais peut-être que si ils réussissaient à s'éveiller, ces couples qui n'en ont que 2 ou 1, peut-être qu'ils en auraient 3 et 4. Il faut une solide vie spirituelle, autrement il n'y aura pas d'enfants. Même quand les moyens sont superbes. Or, l'avortement est devenu une intervention chirurgicale la plus répandue dans la plupart de nos pays. Saviez-vous ça? Et plus de 99% des avortements, j'ose l'affirmer, n'ont rien à faire avec la vie ou la santé de la mère. Comme c'était autrefois, ça ne se pratiquait que dans les cas de où la santé vraiment, sérieusement de la mère était en grave danger. Et ces avortements ne sont pratiqués que pour répondre à une angoisse qui s'empare d'elle, à un courant. Elle n'est pas responsable souvent, elle ne sait pas ce qu'elle fait et elle va souffrir. C'est un certain désir de confort qui est mêlé à tout ça. On pratique des avortements pour éviter la détresse et le désarroi. Pour un bonheur qui me semble illusoire dans la plupart des cas, sinon dans tous. Parce que dans nos pays occidentaux, imaginez qu'il y a à peu près un avortement pour 2 naissances, c'est normal. Ici, chaque année au Québec, là, notre peuple élimine 30 000 enfants par an. C'est un massacre des innocents, quoi. Je m'excuse, je ne veux pas blesser qui que ce soit. Je parle calmement, je ne veux pas blesser qui que ce soit. Je veux avoir le droit de dire ce qui en est, comme les autres ont le droit de dire ce qui en est. Ils ont tellement le droit que le gouvernement du Canada a établi qu'il n'y avait aucune loi qui s'opposait à quelque avortement que ce soit, même à la dernière limite. À 9 mois, oui. C'est comme ça au Canada. Parce que l'avortement est devenu si fréquent que les sociologues disent que c'est en fait une nouvelle forme de contraception. Et pourtant l'avortement, me semble, c'est très différent de la contraception. D'accord, la contraception empêche une nouvelle vie de commencer. Et l'avortement détruit une nouvelle vie déjà commencée. Avez-vous vu hier, si vous avez quitté Radio Ville-Marie, je ne vous le recommande pas, il y avait la belle émission Découverte avec Charles Tisser, hier à Radio-Canada, une télévision, et on nous a montré à 7h moins quart hier soir la fécondation de la première cellule qui se divise en 2, en 4, en 8, en 16, 32. Et très rapidement, ces cellules-là savent ce qu'elles doivent faire. Comment se fait-il qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire si ce n'est qu'elles sont programmées par Dieu lui-même? Or, une grande partie des femmes se font avorter. Elles ne sont pas mariées, certaines sont adolescentes. Une bonne part est constituée de clientes régulières qui vont se faire avorter. 3 fois, 4 fois. Pauvre femme. En ce temps où le confort est roi, ben, l'avortement est présenté comme un moyen, rapide, facile, de se débarrasser d'un problème ennuyeux. Et puis aux femmes qui leur demandent conseil, ben, les professionnels de l'avortement ne disent tout simplement pas la vérité sur ce qu'il va arriver à leur enfant. On leur dit rien. Ni sur ce qu'ils vont leur faire vraiment. Tant à leur enfant qu'à elles-mêmes, les mères. Parce qu'on les attaque même dans leur âme, dans leur psychologie, dans leur esprit. Mais elles ne savent pas. Et tout d'abord, l'avortement, bien, c'est une intervention chirurgicale importante. Ça donne parfois lieu à des complications graves. Et c'est pas aussi sûr qu'on veut bien le dire. Il y a des statistiques qui montrent qu'après un avortement légal, une femme est confrontée à des risques accrus de fausses couches. Il y a même des grossesses anormales, des naissances prématurées, qui sont une grande douleur. Grande douleur. Parfois, ça entraîne la stérilité. Et la femme est obligée d'aller en Chine avec son mari, ou son conjoint, comme on dit aujourd'hui, pour acheter un enfant. Il y a surtout des troubles, mais c'est ça ce que je trouve le plus grave, peut-être, c'est les troubles émotionnels et graves, qui sont prolongés. C'est dur pour une femme qui s'est fait avorter de voir tout à coup, 10 ans plus tard, un enfant qui joue dans la rue, et qui a 10 ans le même âge. Vous savez que les personnes qui ont pratiqué des avortements et qui ont cessé reçoivent de nombreuses lettres de femmes qui ne pourront plus jamais avoir d'enfants à cause d'infections et de complications consécutives à un avortement pourtant jugé sûr. Et ces anciens avorteurs ou avortrices, je ne sais pas si on dit ça, sont terrifiés de ce qu'elles ont fait ou de ce qu'ils ont fait. Au lieu de leur dire aux femmes les vérités, ben on ridiculise leurs craintes, on rigole, puis on leur dit « Mais ne craignez rien, vraiment, il n'y a rien là, c'est si simple, c'est rien que de plus que de vous enlever comme une verrue, quoi. Vous êtes enceinte aujourd'hui, mais tout à l'heure vous ne le serez plus, puis demain vous serez en paix. » Il faut vraiment avoir vu hier le programme Découverte avec Charles Tisser pour comprendre. Ça aide beaucoup. Quand un bébé n'est pas encore né, et devient-il une vraie personne? Ils nous l'ont montré hier, tout jeune, un peu plus de 2 mois. C'est un vrai bébé, il nous le tenait dans les mains, là. Et tout petit, mais vraiment un bébé. Hein? On nous dit que quand les 23 chromosomes du spermatozoïde s'unissent aux 23 chromosomes de l'ovule, se forme une nouvelle cellule de 46 chromosomes. Et une fois ce processus de fécondation qui est réalisé, c'est un nouvel être humain qui existe déjà parce que, pourquoi? Parce que la cellule est un tout génétique, c'est programmé par Dieu, je le dis, ou par la nature, si vous préférez. La nature. Pour devenir un adulte à part entière, rien n'y sera ajouté, sauf du temps et de la nourriture, c'est tout. Et cette cellule se divise, je vous le répète, 2, 4, 8, 16, 32, et en un clin d'œil, elle sait comment faire. Le cœur du bébé commence à battre là, vers le 19e ou 20e jour, parfois même au 14e jour, après la conception. C'est incroyable, la femme ne sait même pas qu'elle est enceinte, il y a un cœur qui bat en elle. Puis à partir du 30e jour, un mois quoi, tous les organes ont commencé à se former. Puis à 6 semaines, un mois et presque et demi, l'enfant bouge, bras et jambes. Puis à 43 jours, mais 43 jours, c'est pas beaucoup ça. Un mois et demi, le fonctionnement de son cerveau peut être constaté. À 8 semaines, même pas 2 mois, le bébé à ses propres empreintes digitales, il est capable d'uriner, de fermer le poing, de sentir la douleur, et chaque étape de son développement, depuis la fécondation jusqu'à la vieillesse, n'est que l'accomplissement de ce qui était déjà présent au départ. Il faut savoir ces choses. Je ne veux pas blesser qui que ce soit, je le répète, je ne veux pas faire de peine à qui que ce soit, ce n'est pas mon genre. Je veux simplement que l'on prenne conscience. Ça me gêne presque de vous dire brièvement, en 2 secondes, en 1 minute, quelles sont les techniques d'avortement. Les connaissez-vous? Il y a dilatation et curetage. Vous savez, il s'agit de gratter puis de couper. Alors le bébé, le fœtus, est coupé en morceaux. Et, je continue pas, c'est trop dur. Il y a le curetage par aspiration, le vide que crée l'aspiration, c'est si fort que le bébé est déchiré en morceaux, puis aspiré dans un flacon. Il y a la dilatation puis l'évacuation. Ça, on fait ça quand le bébé a entre 12 et 20 semaines, on introduit une substance à base d'algues pour dilater le col, puis ça provoque la mort de l'enfant. Puis l'empoisonnement salin, ça c'est pour des bébés de 4e mois, là. Alors, le bébé sort, c'est un vrai bébé qui sort, terrible. Puis l'avortement par césarienne, bien là, c'est abominable, c'est encore pire, c'est durant les 3 derniers mois de la grossesse, là. Alors, on fait une incision, puis on pénètre dans l'utérus, le bébé est sorti, il est vivant, alors on le laisse mourir, ou on le tue délibérément. Je le dis parce que ça se pratique ici et là, rarement, mais ça se pratique. Et ça n'est pas contraire à la loi ici au Canada. Il y a l'avortement chimique, aussi la prostaglandine, puis les avortements chimiques aux prostaglandines et la RU-486. Bon, je ne m'étends pas sur cette pilule qui est abominable. Vous savez que les médecins font un serment, le serment qu'on appelle d'Hippocrate, qui est devenu, dit-on, chez des gens, le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire je ne donnerai aucun médicament mortel à quiconque le demande. Donc je ne ferai pas, commettrai pas d'euthanasie. Ni n'en donnerai le conseil. Et de la même manière, je ne donnerai pas à une femme un pessaire abortif. Et cette phrase du serment d'Hippocrate a été changée. On dit maintenant, je ne ferai rien d'illégal. C'est tout. C'est tout. C'est terrible. Mais enfin, pour moi, ce qui compte avant tout, c'est la détresse de la mère devant une grossesse non désirée. C'est terrible. C'est terrible. Il y a un médecin qui pratique des avortements qui dit « Nous devons prendre en compte cette détresse si quelqu'un doit faire le travail. » Eh bien, malheureusement, nous, médecins, nous jouons le rôle de bourreaux dans cette affaire. Donc, qu'est-ce qui arrive à des bourreaux? Vous savez que les bourreaux, à force d'être bourreaux dans les pays comme le Chili ou d'autres, ou derrière le rideau de fer autrefois, etc., ils se rendent plus compte, hein? Ces personnes-là, ça ne s'en rendent plus compte. Ils font ça, puis 20 ans après ou avant, ils se sont endurcis. C'est inconcevable. Si on cherche des bonnes raisons ou si on passe outre, un jour on peut se réveiller et réaliser que cette voix de la conscience s'est tue. Et c'est ce qui est arrivé dans notre société. Notre conscience, elle n'existe presque plus, elle est comme morte. Et la première réaction peut être de pousser un soupir de soulagement puis dire « tout va bien, il n'y a rien là ». Il faudrait plutôt verser des larmes amères de chagrin devant tous ces saints innocents. Car alors une partie de la conscience, une partie de la communication avec celui que nous sommes vraiment, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, eh bien, cette partie de la communication avec l'essence même de nous-mêmes est perdue, si ce n'est pas la communication avec Dieu. Puis il se peut que cette conscience, ce fil merveilleux qui fait que nous sommes des êtres humains, eh bien, il soit brisé à tout jamais. Alors, pour Dieu, c'est clair, ces petits paquets d'humanité sont des humains à part entière. On lit ça dans la Bible avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de ton ventre, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Il dit ça à Jérémie, et Jérémie devient un grand prophète. Dieu a des projets pour chacun de nous dans le sein de nos mères. Eh oui. Je sais pas s'il en avait un projet pour moi. Moi, je suis un enfant non désiré qui devait être avorté. Mais je suis là grâce à ma mère et je la remercie du fond du cœur. Ah, même si on ne croit pas au texte des évangiles, de la Bible, même si on est incroyant, la science nous montre que ce sont des enfants. Et l'Allemagne nazie avait décrété une loi permettant l'extermination des inutiles de la société. Bien, on y arrive. On songe à les supprimer. Alors qu'on commence à les supprimer maintenant, en analysant que dans le sein de la mère, il y a là un enfant inutile, handicapé. Et ces pauvres petits handicapés, eh bien, on les tue. Pourtant, il est bien dit dans l'Exode, « Ne tue pas l'innocent, car je n'absous pas le coupable. » Oh, l'enfant non désiré, vous savez, un enfant nouveau-né ne sera jamais non désiré quand les parents le voient. De toute façon, les demandes d'adoption de nouveau-nés sont loin d'être satisfaites. C'est plein de parents qui veulent qu'on leur fasse le cadeau de la vie. Vous direz que c'est trop difficile, mais il me semble que c'est bien mieux de donner son enfant que de le tuer. Suis-je trop sévère? Moi, est-ce que je manque de compréhension? Vous savez, on en arrive à douter quand on pense comme je pense, mais je ne doute pas au fond de moi-même. Et si vous voulez par hasard des dépliants, puis un vidéo intitulé « Fenêtres sur les premiers jours de la vie », tout ça est mis gratuitement à la disposition du public par le respect de la vie, c'est un mouvement d'éducation, et vous téléphonez à 514-933-8354. 933-8354 et vous aurez la documentation. Vous aurez bien d'autres documents qui vous seront remis, qui vous permettront peut-être de mieux comprendre des erreurs dans lesquelles nous avons glissé. Au grand dam de notre peuple et de tout l'Occident, sinon du monde entier.